de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter quelques événements importants informés. Entre autres, le Qatar garantit la ponctualité de la Coupe du Monde 2020. Journée de la sécurité sanitaire des aliments. La FAO est dédiée aux agriculteurs. Pelindo 3 invite la Corée du Sud à construire un entrepôt de refroidissement dans la baie de Lamon. La Palestine soumet une résolution à l'ONU pour condamner l'occupation de la Cisjordanie. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a fait de Sukabumi le projet pilote de la culture des crevettes durables. IACEPA devrait encourager l'investissement en Indonésie. L'Australie, l'Iran n'a jamais refusé l'accès à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a déclaré la Russie. Mon cher Jolitar, voici les nouvelles en complet. Le Qatar garantit la ponctualité de la Coupe du Monde 2020. La haute du Qatar garantit que la Coupe du Monde 2020 aura lieu à temps, même si cette année il y a une menace de pandémie de coronavirus. Le Qatar se conformera également à toute modification des directives en matière de santé et de sécurité sur la base des résultats des consultations avec diverses parties. Même si la construction du stade a atteint près de 90%. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, a assuré que le Qatar avait travaillé dur pour créer la plus grande fête du football au monde, qui soit sans danger pour la santé. La consultation a été réalisée avec diverses organisations. Cela a été dit par Cheikh Mohamed, cité par Sky Sport dimanche 7 juin. Il a déclaré plus tard que les préparatifs du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde sûre et saine du Qatar seraient annoncés au public. Le Qatar est également touché par le coronavirus avec un taux d'infection assez élevé. 65 000 cas ont été découverts au Qatar, mais ils ont réussi à réduire le taux de mortalité qui n'est que de 49 personnes. Le Cheikh Mohamed espère que les pays et les organisations s'uniront pour trouver le vaccin contre le virus. Une stratégie mondiale doit être discutée afin de trouver un moyen de sortir de cette crise. Journée de la sécurité sanitaire des aliments, la FAO est dédiée aux agriculteurs. l'Agence mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, sous l'égide des Nations Unies, FAO, a appelé tous les pays à poursuivre sérieusement leurs efforts pour améliorer la sécurité alimentaire et la disponibilité dans leur système de chaîne agricole. Le représentant en chef de la FAO en Indonésie, Stephen Rudkar, a déclaré ici dimanche que la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments, le dimanche 7 juin, était dédiée à tout le monde, y compris aux agriculteurs qui avaient veillé à ce que la pandémie ne perturbe pas la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de sorte que la nourriture restait disponible. On dit que tout le monde a un rôle important à jouer pour garantir que les aliments consommés sont sûrs tout au long de la chaîne alimentaire, de la terre à la table à manger. Il a indiqué que la FAO travaillerait avec le gouvernement indonésien pour améliorer la sécurité alimentaire grâce à une meilleure coordination avec les autorités responsables de la sécurité sanitaire des aliments, développer un cadre réglementaire solide et aider à l'application des bonnes pratiques dans la chaîne alimentaire des producteurs aux consommateurs. Pelindo 3 invite la Corée du Sud à construire un entrepôt de refroidissement dans la baie de Lamon. Pelabuhan Indonesia 3 SA Persero invite les sociétés d'ingénierie et de construction SK de Corée du Sud à construire réfrigéré utilisant la technologie du gaz naturel liquide GNL au terminal Teluk Lamon Surabaya Java Oriental pour soutenir la logistique fluide dans la région. Le directeur de Pelindo 3 Business Transportation and Development, Toto Nugroho, dans un communiqué publié à Surabaya dimanche, a déclaré que cette collaboration était une bonne opportunité au milieu de la pandémie de COVID-19, car elle pourrait augmenter la valeur de chaque entreprise et renforcer les relations entre deux pays. Toto a admis que cet entrepôt frigorifique sera une attraction pour les utilisateurs des services portuaires de Java Oriental et de l'Indonésie, car cette installation est très importante pour maintenir la disponibilité de la logistique alimentaire comme la viande, la poisson, les légumes et les fruits qui nécessitent des machines de réfrigération pour les rendre plus durables et ne pas pourrir facilement afin de réduire les coûts. La Palestine soumet une résolution à l'ONU pour condamner l'occupation de la Cisjordanie. Le gouvernement palestinien aurait soumis une résolution aux Nations Unies pour condamner l'annexion de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain faite par Israël. Cela a été révélé par des représentants israéliens aux Nations Unies dimanche 7 juin. La délégation palestinienne à l'ONU a l'intention de soumettre la résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette mesure est faite par la Palestine, se rend compte très bien que les États-Unis ont un droit de veto sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Washington est considéré comme un allié d'Israël et soutient certainement l'annexion de la Cisjordanie. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, comme cité par le site internet de Jerusalem Post, est prêt à contrecarrer les efforts palestiniens. Pendant ce temps, samedi 6 juin, des milliers d'Israéliens à Tel Aviv ont fait la manifestation dans la rue pour s'opposer et rejeter l'annexion prévue de la Cisjordanie, parce qu'ils considéraient cela comme un crime de guerre. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a fait de Sukabumi le projet pilote de la culture de crevettes durables. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche prévoit de faire de la régence de Sukabumi dans l'ouest de Java l'un des sites pilotes pour la culture durable de la crevette dans le pays. Slamet Subjakto, directeur général de l'aquaculture des ministères des Affaires maritimes et de la pêche, dans un communiqué de presse à Jakarta dimanche, a déclaré que le développement d'un projet pilote de culture durable de la crevette vise à réaliser les directives du président concernant l'augmentation des exportations de crevettes de 250% en 2024. Slamet Subjakto a également discuté avec le régent de Sukabumi, Marwan Hamani, concernant ce plan le 3 juin 2020. Slamet a révélé que le produit de la crevette est toujours une des principales exportations de la pêche nationale et le plus grand contributeur des devises aux exportations de la pêche après le thon. En outre, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et les ministères concernés ont également établi une feuille de route pour le développement de l'industrie nationale de l'élevage de crevettes. IACEPA devrait encourager l'investissement en l'Indonésie et l'Australie. L'accord de partenariat économique intégral Indonésie-Australie, IACEPA, pourrait encourager la croissance des investissements dans les deux pays pendant la phase de reprise de COVID-19. Ça a été dit par le député de la coopération pour l'investissement du Conseil de coordination des investissements BKPM, Wisnu Wijaya Sudibyo, dans une déclaration écrite dimanche à Jakarta. Wisnu a déclaré lors d'une discussion tenue par le Centre indonésien de promotion des investissements IIPC de Sydney en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie à Canberra à l'Association des hommes d'affaires du Conseil d'affaires Indonésie-Australie. La discussion aura lieu avant la mise en œuvre de l'accord IACEPA le 5 juillet 2020 et assistée par 241 participants d'Indonésie et l'Australie. Wisnu a expliqué que IACEPA devait également fournir des opportunités aux entreprises régionales de commercialiser leurs produits en Australie et de collaborer également en tant que partenariat locaux pour les investisseurs australiens qui investissent en Indonésie. Selon lui, l'Australie est le 10e plus grand investisseur pour la période de janvier et mars 2020, avec un investissement total de 86 millions de dollars américains, environ 1,2 billion roupias, avec 324 projets d'investissement. L'Iran n'a jamais refusé l'accès à l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, a déclaré la Russie. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'Organisation internationale à Vienne, en Autriche, Mikhail Ulyanov, a déclaré dans un message que l'Iran n'avait pas refusé l'accès à l'inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'AIEA. Cela a été dit par Mikhail Ulyanov dans son compte Twitter dimanche. Ulyanov a déclaré que l'Iran ne remettait pas en question les droits de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA et était prêt à continuer la consultation. L'AIEA exprime sa préoccupation à cette question, mais est également prête à dialoguer. Il espère que le problème sera bientôt résolu. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès de l'Organisation internationale à Vienne, Kazem Garibabadi, a déclaré que le nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le plan d'action global conjoint ZCPOA signalait la poursuite des activités de vérification de l'AIEA. Il a décrit les actions de l'Iran dans la mise en œuvre de sa décision de suspendre ses engagements JCPOA à la suite du retrait unilatéral de l'Iran du plan d'action global conjointe. L'Iran essaie de maintenir l'accord nucléaire à condition que les autres parties à l'accord respectent leurs engagements envers l'accord. Mon cher auditeur, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La roupie continue de se renforcer au milieu de la pandémie de COVID-19 ». La Banque d'Indonésie est optimiste que la roupie continuera à renforcer même si la pandémie de COVID-19 n'est pas terminée. Le taux de la change de la roupie à la clôture des marchés vendredi a augmenté de 1,54% pour atteindre un niveau de 13 877 roupies par un dollar américain. Selon le gouverneur de la Banque d'Indonésie, M. Perry Warjio, la roupie a le potentiel de continuer à se renforcer en raison de l'inflation et des faibles taux d'intérêt. En outre, le déficit de compte courant continue de diminuer. Le flux de capitaux étrangers continue également d'entrer, soutenant ainsi le renforcement de la roupie. La Banque centrale a noté que les entrées de capitaux étrangers en Indonésie ont atteint 7 billions de roupies au cours de la première semaine de juin. Les fonds de ces investisseurs étrangers entrent par le portefeuille de titres d'État. Perry a déclaré que la tendance s'améliore et l'indicateur de prime de risque de l'Indonésie ou un swap de défaut de crédit a baissé. Actuellement, le swap de défaut de crédit est au niveau de 126. Il est encore élevé, mais lorsque COVID-19 était endémique, il a touché 245 avec un taux de change de la roupie de 16 600 pour un dollar américain en mars. Avant la pandémie, il était enregistré entre 66 et 68. Le renforcement de taux de change de la roupie est également soutenu par une bonne coordination entre le gouvernement et la Banque d'Indonésie. Ainsi, les investisseurs étrangers ont également confiance dans le marché financier national. Un autre facteur de renforcement de la roupie est la situation actuelle aux États-Unis, touchée par l'épidémie de COVID-19 et la manifestation à grande échelle. Selon l'économiste de INDEF, M. Bima Yudhistira, la roupie a largement profité des manifestations aux États-Unis, des manifestations de solidarité avec la mort de George Floyd et d'autres Afro-Africains qui ont été tués par la police américaine auparavant, se sont produits à de nombreux endroits aux États-Unis au cours de la semaine dernière. Certaines manifestations se sont même transformées en émeutes et en affrontements avec les forces de l'ordre. Cela aggrave la situation aux États-Unis. Les relations entre les États-Unis et la Chine se échauffent à nouveau. Et l'attitude du président Donald Trump envers l'Organisation mondiale de la santé, ce qui fait les acteurs de marché mondial commencent à quitter le dollar. L'affaiblissement du dollar fait affluer des fonds étrangers vers des pays promoteurs, y compris l'Indonésie. Cela renforce la roupie bien que la pandémie de COVID-19 ne soit pas encore terminée dans ce pays. Bon, chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 8 juin. Le 8 juin 1921, le président Suharto est né. Le major général de l'armée nationale indonésienne, retraité Muhammad Suharto, est né à Kemusuk village Argomulyo, district Sedayu, Bantul, Yogyakarta, le 8 juin 1921. Suharto a été le deuxième président indonésien de 1967 à 1998, remplaçant le président Sukarno. Le président avec le titre de grand général à la retraite de l'armée nationale indonésienne est par la société occidentale souvent appelé le sourire général à cause de son visage qui affiche toujours son sourire typique. En outre, malgré la controverse, il détient également le titre de Monsieur Développement d'Indonésie, car en 32 ans de son règne, il a réussi avec succès de construire des infrastructures en Indonésie. Le 8 juin 1975, l'équipe de badminton féminin indonésienne a remporté la Coupe Uber pour la première fois. Après avoir attendu 16 ans, le 6 juin 1975, l'équipe Uber indonésienne pour la première fois a finalement réussi à remporter le champion. Le couple Minarni et Regina Masli devenaient déterminants d'une victoire après avoir remporté 15-8 et 15-11 sur un couple Hiroyuki et Mika Ikeda. Dans une finale qui était témoignée par 10 000 spectateurs à Istora Senayan, Jakarta, le Japon avait une avance de 2-1 dans les 3 singles matchs qui ont été joués. Pourtant, en fin de compte l'ensemble, l'équipe Uber indonésienne a gagné 5-2 sur le Japon. Le 8 juin 1992 a été désigné Journée mondiale des océans. La Journée mondiale des océans a été établie depuis le 8 juin 1992 au sommet de la Terre des Nations Unies à Rio de Janeiro, au Brésil. La Journée mondiale des océans est célébrée pour faire ressentir à tout le monde le lien entre la vie des êtres vivants et les océans. Avec le souvenir de la Journée mondiale de la mer, il est souhaitable qu'elles doivent changer leur perspective humaine sur la mer. Quelle contribution a-t-on apporté à la mer de la vie? Il est donc approprié que les êtres humains la maintiennent et la préservent toujours.
Oh, aku rindukanmu.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement stimule l'investissement dans le secteur industriel. Le gouvernement indonésien s'efforce d'encourager la réalisation d'investissements dans le secteur industriel, tant de la part d'investisseurs étrangers que locaux. Cette étape stratégique vise à approfondir la structure de la fabrication dans le pays afin qu'il puisse renforcer la chaîne d'approvisionnement et la compétitivité. Le chef du Centre de données et d'information du ministère de l'Industrie, Jano Suryanto, à Jakarta, a déclaré jeudi que le ministère continuerait de superviser les investissements dans le secteur industriel afin qu'il puisse stimuler la capacité de production pour répondre aux besoins du marché intérieur jusqu'à l'exportation. Bien qu'au milieu de la forte pression de l'impact de la pandémie de COVID-19, Jano a souligné que le gouvernement reste déterminé à créer un climat des affaires propice en Indonésie. Il est prévu que les investisseurs fassent de plus en plus confiance et soient à l'aise pour émettre des fonds. Selon le Centre de données et d'information du ministère de l'Industrie, en plus de cibler toujours les investissements du secteur industriel qui produit des produits de substitution importés, le gouvernement sera également plus agressif pour attirer des investissements qui peuvent créer des emplois ou des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Selon lui, jusqu'à présent, l'activité industrielle avait été prouvée large impact sur l'économie nationale, notamment à travers une augmentation de la valeur ajoutée des matières premières, des recettes en devises provenant des exportations et de l'emploi. Jano a également révélé que l'Indonésie était toujours le principal pays de destination pour les investissements, en particulier pour le secteur de l'industrie manufacturière. Ce potentiel est soutenu par la disponibilité d'un grand marché et de matières premières abondantes. En fait, l'Indonésie est considérée comme ayant l'avantage d'être utilisée comme centre de fabrication dans la région de l'ASEAN. Une autre attraction pour les investisseurs est que l'Indonésie s'est déclarée prête à mettre en œuvre l'industrie 4.0 par la mise en œuvre de la feuille de route de Make in Indonesia 4.0. Le ministère de l'Industrie a noté qu'au cours de la période 2015-2019, la valeur totale des investissements étrangers du secteur de l'industrie manufacturière s'élevait à 61,5 milliards de dollars américains. Au cours des 5 dernières années, le secteur qui a le plus contribué aux investissements étrangers a été l'industrie de métaux de base, qui a versé des fonds pouvant atteindre 12,8 milliards de dollars américains. Ensuite, suivi par l'industrie chimique et les produits chimiques jusqu'à 9 milliards de dollars américains, et l'industrie alimentaire et des boissons qui a touché le chiffre de 8 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, le secteur qui a enregistré l'investissement domestique le plus élevé au cours de la même période consécutive était celui de l'alimentation et des boissons qui totalisait 158,3 billion rupiah. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Selamanya kelabu bila sang menang. seakan tak lepas dari jalanmu, mengurung semua ruangmu dan hanya kecewa jadi bijakan. Kini ku kan ada di sampingmu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à connaître la danse Trunajaya de Bali. Chers auditeurs, la danse Trunajaya est l'une des danses de la nouvelle création de Bali, précisément la résidence de Buleleng, au nord de Bali. La danse est créée en 1915 par Pan Wandres dans le cadre de Kebiar Legong, puis affinée à nouveau par I Gede Manik, artiste bien connu de Bali. La danse Trunajaya décrit plus en détail le mouvement des jeunes qui deviennent adultes, très émotionnels, leur attitude qui tente toujours d'attirer le cœur des femmes. La danse est un spectacle de divertissement qui permet d'être représenté partout, y compris dans la cour du temple, sur le terrain, sur la scène fermée ou ouverte ou dans d'autres lieux. Chers auditeurs, dans l'histoire, la danse Trunajaya ne peut pas être séparée de la danse Kakebiaran, ce qui signifie qu'elle est proche du Kebiar. On l'appelle comme ça car la danse n'est pas seulement accompagnée de gamelan gong Kebiar, mais son mouvement est très dynamique et ressemble à du Kebiar. Le développement de gong Kebiar, qui était à l'origine en 1920, attiré par un rythme dynamique et moderne. Gong Kebiar est aimé par des gens, en particulier des jeunes, et se répand rapidement dans tout Bali. D'ailleurs, depuis que Imaria crée la danse Kebiar. Dans la résidence de Buleleng, les gens sont très enthousiastes à l'arrivée de Gong Kebiar, attirant même l'attention particulière des colonisateurs hollandais de cette époque.
L'existence de Gonkbière dans la région a encouragé l'apparition de différents types de nouveaux mouvements de danse qui utilisent le gamelan comme accompagnement de la danse. Initialement, cette danse est une danse unique qui est incluse également dans la danse Babantian, car elle présente des caractéristiques féminines et masculines. Au fil du développement, la danse Tunajaya est interprétée par plus d'un danseur. La danse a une durée flexible. La durée la plus courte de la danse est d'environ 11 minutes. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La danse Tunajaya de Bali ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la réplique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Kamu sedang apa ?» ou en langue française « Qu'est-ce que tu fais ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Kamu sedang apa ?» ou en langue française « Que tu fais ?» Tony et Dinda regardent les photos de leur mariage. Joko vient et les salue.
Joko, kalian sedang apa? Dinda, kami sedang melihat foto pernikahan kita. Tony, ya, kamu masih sangat muda dalam foto ini. Joko, sekarang aku masih muda juga kan?
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir « Kamu sedang apa ?»« Kamu sedang apa ?» En français, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. « Kamu sedang apa ?»« Kamu sedang apa ?» En français, « Qu'est-ce que tu fais ?»« Kalian sedang apa ?» Kalian sedang apa? En français, qu'est-ce que vous faites? Photo, photo. En français, photo. Kami sedang melihat foto pernikahan kami. Kami sedang melihat foto pernikahan kami. En français, nous regardons notre photo de mariage. Kami masih sangat muda dalam foto ini. Kami masih sangat muda dalam foto ini. En français, tu es encore très jeune sur cette photo. Sekarang aku masih muda juga kan? Sekarang aku masih muda juga kan? En français, maintenant je suis encore jeune, n'est-ce pas? Ibu sedang apa? Ibu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais, maman? Kamu sedang apa waktu aku menelpon? Kamu sedang apa waktu aku menelpon? En français, que fais-tu quand j'appelle? Gempa ou gempa bumi? Gempa atau gempa bumi? En français, tremblement de terre. Belajar, belajar. En français, étudier. Membaca buku. En français, lire des livres. Olahraga, olahraga. En français, les sports. Mandi, mandi. En français, prendre une douche. Dans le dialogue, vous entendez, kalian sedang apa? Kalian sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? La question est posée lorsque vous souhaitez connaître les activités réalisées par l'autre personne. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Dia sedang apa? Dia sedang apa? En français, qu'est-ce qu'il fait? Ibu sedang apa? Ibu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais, maman? Si vous voulez poser des questions sur les activités que quelqu'un a faites dans le passé, ajoutez une description du passé, exemple, kamu sedang apa waktu aku menelpon? Kamu sedang apa waktu aku menelpon? En français, que fais-tu quand j'appelle? Kalian sedang apa ketika terjadi gempa? Kalian sedang apa ketika terjadi gempa? En français, que faisiez-vous pendant le tremblement de terre? Les phrases kalian sedang apa ou sedang apa kalian sont similaires. Tous les deux peuvent être utilisés. La phrase réponse à la question est aku sedang mandi waktu kamu menelpon. Aku sedang mandi waktu kamu menelpon. En français, je prends une douche quand tu appelles. Kami sedang belajar ketika terjadi gempa. Kami sedang belajar ketika terjadi gempa. En français, nous étudions lorsqu'un tremblement de terre se produit. Les autres exemples. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Saya sedang membaca buku. Saya sedang membaca buku. En français, je lis un livre. Kemarin aku menelpon kamu tidak diangkat. Kemarin aku menelpon kamu tidak diangkat. En français, hier je t'ai appelé mais ça n'a pas été capté. Ya, maaf, kemarin aku sedang olahraga. Ya, maaf, kemarin aku sedang olahraga. En français, oui, désolé, hier j'étais le sport. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Joko, kalian sedang apa? Dinda, kami sedang melihat foto pernikahan kita. Tony, ya, kamu masih sangat muda dalam foto ini. Joko, sekarang aku masih muda juga kan?
Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous? Voice of Indonesia, émission d'interbang sur l'urgence de COVID-19 sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter une chanson indonésienne. Et cette fois, nous allons présenter une chanson chantée par Hetty Kus Endang. La chanson intitulée « Notre amour » et le genre pop rock a été popularisé par la rocker indonésienne Inka Christie et Amy Search, le chanteur malaisien en 1991. La chanson a été de nouveau chantée par Hetty Kus Endang avec le genre keroncong moderne. Il décrit les sentiments amoureux et l'auteur de cette chanson veut décrire le pouvoir de l'amour entre les deux personnes. Bon, chers amis, écoutez maintenant une chanson intitulée « Notre amour » chantée par Hetty Kus Endang.
Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu, walaupun harus hujan lautan bara. Thank you.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.